I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Comme tout le monde fait la même chose. Moi, je me suis dit que à l'époque, tu vois, il fallait se faire connaître d'une autre manière et casser les codes d'entrée.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
Mais après, je crois que c'est ça aussi, tu vois, faut pas avoir peur et aller au culot. Je connais pas un prof de musique ou machin qui fait un hit.
Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Ça enregistre, bah salut Cor.
Salut.
Merci beaucoup de venir sur Nouvelle École, je suis vraiment hyper content de te recevoir.
Avec plaisir.
C'est vraiment plaisir. Je vais te présenter, enfin on va te présenter un peu pour, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne savent pas qui t'es, tout simplement parce que les producteurs ont tendance à être un peu pas sur le devant de la scène, disons. Moi je te décrirais comme producteur de musique, mais toi tu dis quoi quand on te demande ce que tu fais maintenant ?
Bah j'ai toujours, ouais je suis producteur de musique. DJ aussi, mais disons que DJ, en fait, je suis dans un truc où j'ai beaucoup mixé pendant un temps, et j'ai arrêté pendant un moment parce que la production me prenait énormément de temps, et de temps en temps, je m'amuse, tu vois, je mixe avec mes potes, et plus en mode poteau, tu vois, que gros game, et là, je réfléchis, en fait, à revenir aussi un peu plus là-dessus.
Plus au mix ?
Plus au mix et voilà, mais avant tout, ouais, je me définis comme un producteur, un compositeur et d'une manière plus générale, un mec qui crée, quoi, tu vois, qui crée des choses, qui crée des situations, qui essaie tout le temps d'amener un truc nouveau.
Ouais, parce que les gens qui écoutent ça, ils connaîtront peut-être pas tous ton nom, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils connaissent une bonne partie des sons que tu as produits. Que ce soit dans les années 2000, tu bossais avec. Au début, tu avais ton duo avec Scalp.
Ouais.
Où vous avez bossé sur. Il y a eu Rof, il y a eu Booba.
Ouais.
Il y a eu la BO de Taxi 3.
Taxi 3, ouais.
Après, toi, tu as fait un peu ton. Vous êtes séparés, tu as fait un peu ton chemin en solo. Tu as même bossé avec des rappeurs aux US. Tu es un des rares, d'ailleurs, français qui a pas mal bossé avec. Tu as bossé avec Rick Ross.
Mm-hmm.
Tu as bossé avec French Montana aussi. Wale, ouais.
Wale, French, Mick Mill.
Puis là, récemment, enfin plus récemment, il y a eu La Crime, il y a eu SCH. Il
ouais.
y a eu la BO de Taxi 5, là, récemment.
Taxi 5.
Mais en fait, ouais, on parlait du fait que tu te remettais au mix, et t'as commencé comme ça, non ? T'as commencé en tant que DJ ?
J'ai commencé en tant que DJ, j'ai été le DJ de pas mal d'artistes de l'époque. J'étais le DJ de Lunatic. Pendant un moment, j'étais le DJ de la Secret Connection à l'époque.
Comment ça s'est fait ? Comment t'as commencé à mixer, toi ?
En fait, moi, j'ai commencé à mixer. J'étais, j'ai tous mes oncles, si tu veux, qui étaient déjà dans la musique, mais plus en mode mélomane, tu vois. Ils adoraient le son et ils étaient super actifs, tu vois, c'est des collectionneurs de vinyle, en fait. Donc je les accompagnais des fois à des conventions, des trucs et tout, et je regardais un peu comment ça se passait.
Ils faisaient de la musique ou plus ils la consommaient?
Ouais, ils la consommaient plus, tu vois. Ils la consommaient, mais ils en consommaient beaucoup plus, en fait. C'était un petit peu... Leur lifestyle, il était un petit peu autour de ça, tu vois, autour de la ZIC. Et du coup, bah, ça m'a mis dedans, en fait, tu vois. Ça m'a mis dedans et j'ai commencé comme ça à... Je me suis acheté mes platines.
T'avais quel âge?
Je sais pas, je devais avoir 16 ans, tu vois.
Ouais, jeune quand même.
Ouais.
C'était quoi les trucs, c'était quoi les influences que t'avais, du coup, qu'ils écoutaient, etc. C'était quoi ton premier disque, toi?
Mon mentor, en fait, déjà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est Stevie Wonder. Tu vois, c'est vraiment parti de là. Et après, mon premier scud, putain, j'étais, je sais pas, ça devait être peut-être SOS Band. J'étais très, très calé funk, tu vois. Très, très funk, très soul. Et voilà. Et après, de petit à petit, j'ai commencé comme ça. Et puis, un jour, j'avais un groupe de rap qui s'appelait Succursale Nord à l'époque.
Dans lequel tu mixais ou tu rappais?
Non, je mixais, en fait. Okay. Enfin, je mixais, mais je venais de commencer en tant que DJ, tu vois. J'étais pas vraiment DJ. Et puis là, il y a un mec qui nous a, à l'époque, on était à Châtelet et Châtelet, c'était un petit peu le carrefour de tout, quoi. Tu vois, il y avait plein de gens qui rappaient dans la rue. Il y avait des danseurs. C'était assez cool comme ambiance. Et là, il y a ce mec-là qui vient et tout et qui nous demande à chacun ce qu'on fait. Et mes potes disent, voilà, bah, moi, je suis rappeur. Et il arrive à moi, il me dit, toi, tu fais quoi? Je dis, je suis DJ. Mais en fait, j'étais DJ depuis 2h30. Je venais d'avoir mes platines et tout. Et le mec me dit cette phrase. Il me dit, ouais, tu fais quoi la semaine prochaine, machin et tout. À l'époque, je jouais au foot, tu vois, le week-end. Donc, je dis, bah, j'ai match, en fait, tu vois, je joue au foot. Il me dit, ouais, tu veux pas être le DJ d'NTM? Et très chelou, tu vois. Je me dis, ah ouais, j'y croyais pas trop, en fait, tu vois, parce que c'était NTM.
Ils avaient déjà sorti des trucs.
C'était à l'époque du Affirmative Action, tu vois, avec Nas.
Ah, quand même.
Donc, c'était big. Et ce mec-là me rappelle, en fait, tu vois, je lui laisse mon numéro, le mec me rappelle et il me dit, ouais, on a rendez-vous avec NTM, machin. Et donc, je vais avec lui, je me prête au jeu. Je me dis, j'ai rien à perdre, tu vois. Et là, j'arrive et tout. On est dans une salle de répète, dans un studio à Bagnolet. Et j'ouvre la porte. Et effectivement, il y a Joey Starr et Cool Chain, quoi, tu vois, qui sont là.
Tu te dis quoi à ce moment?
Bah, par rapport à l'époque et tout ce que ça représente, je suis super impressionné, tu vois. Je me dis, c'est lourd. Et en fait, le mec qui nous présente, il était un peu ouf, tu vois. Il leur dit, ouais, voilà, c'est lui le DJ et tout. Je l'ai vu, c'est un tueur et tout. Mais moi, j'étais... Je sais pas comment dire. C'est même pas que j'étais nul, c'est que je savais même pas, tu vois, ce que je venais vraiment de m'acheter mon matos et je commençais à peine, en fait, tu vois. Et de là, Joey Starr m'explique, il me dit, voilà, moi je produis un mec, tout ça, et on a un concert en Belgique qui s'appelait Les Arts du Hip-Hop, un festival. Et il me dit, bah écoute, j'aimerais que tu fasses la première partie avec mon rappeur. Et je lui dis, ok, vas-y, si tu veux.
Et ça te met pas la pression à ce moment-là?
Bah, si, je peux dire non à un moment donné, tu vois. En plus, il y avait, dans le studio de répète, il y avait deux platines, tu vois, d'allumer. Il y avait DJ James, qui était à l'époque, le DJ qui était là à côté des platines. Mec, j'avais une boule au ventre. Je me dis, s'il me demande de faire une démo, je suis mort. Mais après, je crois que c'est ça aussi, tu vois. Faut pas avoir peur et aller au culot. Et du coup, pendant une semaine, tu vois, j'ai appris un show, mais vraiment de manière militaire, quoi. Tu vois, il y a rien, aucun feeling, mais j'étais bien carré dans mon intro et tout, je m'étais pris la tête, tu vois.
Ça veut dire quoi, t'as appris, enfin, s'il y avait les morceaux track par track, en gros, et tu devais faire les transitions, c'est
ça? En fait, c'était le travail de DJ à l'époque, il était... Enfin, je m'entends quand je dis DJ, je parle de DJ qui accompagne les rappeurs. C'était vraiment sur le DJ que tout reposait, tu vois. Donc il y avait un vrai travail de show et d'imagination et de vision à avoir. Et du coup, moi, j'avais bossé une super intro... Avec plein de face B, Quinry, des trucs comme, à l'époque c'était quoi? C'était ouais, Da Bouche Baby, blasé, tu vois, je faisais des passe-passe, des trucs et tout. Et du coup, on arrive au moment du concert et donc je fais mon intro, tu vois, mon intro passe mortel, le public kiffe et tout. Et quand le rappeur arrive, en fait, il y a eu un problème technique, en fait, avec son micro. Et dans un concert de rap, tu vois, ça pardonne pas. Et du coup, le show s'est arrêté pour lui. Et donc le mec était super super vénère et tout
son micro marchait pas, mais genre du tout, c'était mort.
Ouais. Et du coup lui c'est un peu vénère et tout. Et du coup on a arrêté prématurément. C'était la première partie d'NTM, on a arrêté prématurément. Et moi quand je suis sorti de scène, c'était un concert en fait où il y avait tout le monde. Tu vois, il y avait tous les gens de l'époque, il y avait Deux Balles de Neige, il y avait Fab, Il y avait une partie du secteur A qui était là. Et donc, c'était un premier truc pour moi, tu vois, où je voyais en vrai, tu vois, toutes ces personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois, au quotidien. Et là, en fait, chaque mec vient me voir et tout. Il me dit, ouais, c'est mortel et tout ce que tu as fait, ton intro et tout, ça tue, machin. Et y a Fab qui vient me voir et qui me dit, ouais, si t'es doux et tout. Je dis, je suis de Paris et tout, machin. Il me dit, bah, écoute, si tu veux, passe nous voir et tout, machin. Et on essaye de bosser des trucs ensemble. Et du coup, j'avais ce truc de genre DJ super chaud et tout, tu vois. Mais en réalité, j'étais nul, tu vois, à l'époque.
Et en fait, t'avais passé la semaine à taffer comme un ouf tous les jours, c'est ça?
Juste pour une intro. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait pour rattraper cette réputation qu'on m'a donnée, c'est que pendant un an, en fait, tu vois, je me suis vraiment enfermé à m'entraîner, en fait, comme un ouf, au retour de Belgique pour rattraper un peu cette réputation de...
Ça veut dire quoi? C'était quoi tes journées, du coup?
Mes journées, mec, c'était de me perfectionner, tu vois, en mix, en scratch, et vraiment faire en sorte que ma table de mixage et mes platines n'aient plus aucun secret pour moi, tu vois. Donc, et là, j'ai commencé à devenir bon. Et à l'époque, Fab organisait des soirées à Paname, dans un pub à Bastille qui s'appelait Le Factory. Et c'était des soirées super cool et tout, ça commençait le mardi. Et moi, je faisais les warm-up en fait d'un DJ qui s'appelle Cutty B, qui était un super producteur de l'époque, il l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et de là, Cutty B m'a pris sous son aile en fait. Il avait un studio d'enregistrement à Richard Lenoir. Et lui, il était déjà bien dedans. Il était vachement actif avec le WH à l'époque et la Yellow Production en fait. C'était le label de Chris, de Bob Sinclair. Donc du coup, tu vois, j'ai commencé comme ça à mettre un pied dedans.
Qu'est-ce qui fait qu'il t'a pris sous son aile, à ton avis?
Je sais pas. Il avait un petit mec cool qui avait la dalle, quoi. Tu vois, qui voulait y arriver en fait.
Mais c'était quoi ton état d'esprit à l'époque?
Bah, c'était juste, je pense, un magnétisme et une énergie, tu vois, que les gens aimaient bien. Ouais. J'essayais toujours de me rendre disponible, d'être là, de avoir, tu vois, de d'infos, de comprendre, tu vois. Et du coup, c'est comme ça. Et lui, comme il avait son, en tant que DJ aussi, il avait, d'abord, c'était un des meilleurs DJ que je connaissais. Et en tant que compositeur, il était déjà bien dedans, quoi. Tu vois, il produisait la chanteuse Karine à l'époque. Et du coup, c'est comme ça, il m'a pris sous son aile. Et en même temps, c'était un peu le mec qui me laissait faire, qui parlait pas trop et qui m'observait beaucoup, tu vois. Donc, très tôt, j'ai été jeté dans le bain, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me connecter avec d'autres gens parce que, dans son studio, il y a plein de gens qui passaient. Et à l'époque, Karine avait fait un morceau avec la FF, avec la Funky Family. Et c'était Imhotep, en fait, qui avait fait le son. Et Imhotep avait une MPC. Il m'a appris à me servir de la MPC. Donc là, j'ai commencé
c'est à... C'est vrai que t'as commencé à composer.
J'ai commencé à composer comme ça, en fait.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tu as réussi hyper vite, en fait, à t'entourer de mentors ou de gens qui étaient super bons.
Ouais.
Et dans ton histoire, on a l'impression que, tu sais, quand tu le racontes, qu'il y a un peu de chance. Et en même temps, au début, il y a aussi un peu de culot. Et après, il y a aussi un peu de, deux, ouais, d'envie, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, bah, après, c'est parti comme ça, en fait.
Donc, tu as commencé, c'est sur une MPC que tu as commencé à composer,
ouais,
en fait.
Sur une MPC. Après, je me suis acheté ma MPC et je commençais à bosser et enchaîner, en fait.
Et tu délaissais un peu le mix progressivement ou...
Non, j'étais toujours dedans, en fait, parce qu'il n'y avait pas encore ce truc de tu vois, d'une demande, en fait, de ouf, tu vois, de la part des gens, tu vois, sur des productions à moi ou quoi. Donc, il y avait un truc un peu homemade que je gardais, où j'étais plus là, moi, à me prouver des trucs, tu vois, et à essayer de peut-être bosser. Au départ, en fait, ce que je faisais, c'était que je bossais je faisais ce qu'on appelle des breakbeats, en fait, tu vois. Donc, je prenais des loops et tout, je les samplais pour pouvoir après scratcher sur mes breakbeats, tu vois. On était là, on se passait des après-midi tout le temps à scratcher, à bosser. Et
voilà. Vous faisiez que ça, en fait?
Ouais, on faisait que ça. J'étais à la fac à côté.
Ah ouais, justement, je lui ai demandé, t'avais des études à ce moment-là?
Ouais, j'étais à la fac à côté, mais j'y allais que rarement. On était dans les mêmes UV, il y avait moi, Mouloud et la caution.
Mouloud-Achour.
Ouais, Mouloud-Achour, tu vois. On était tous ensemble et du coup, tu vois, c'était un truc assez cool parce que voilà, on échangeait et chacun faisait ses trucs, mais tu vois, on se parlait tout le temps et du coup, ça emmenait un truc, tu vois, d'idées à chaque fois. Et non, c'était cool.
Comment tu penses que les gens, plus jeunes maintenant, ils peuvent faire pour justement essayer de trouver ce genre de scène? Tu vois, on a l'impression que tu as réussi à trouver ta scène en fait, avec tous les gens qui gravitaient autour de cet univers et tout.
Bah, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu sais, paradoxalement, il y a une liberté de ouf, tu vois. Et que ce soit avec le net et avec les réseaux sociaux, avec ce que tu veux, tu vois, tu peux te faire connaître vite, tu peux. Et en même temps, ça cristallise aussi vachement un truc, tu vois, qui fait que la plupart des gens vont dans le même sens. Mais sans pour autant, sans que ce soit fait exprès, si tu veux, tu vois. Mais moi, le regard extérieur que j'ai, c'est que beaucoup de gens vont dans le même sens.
Qu'est-ce que tu appelles aller dans le même sens?
Bah, dans la manière de. Je sais pas, dans la vision musicale, dans la manière d'y arriver ou de se dire, tu vois, comment on va y arriver, c'est un peu souvent le même process, tu vois. Et je pense que nous, à l'époque, comme il n'y avait pas ça, tu vois, c'est même par exemple, tu vois, dans la manière de composer, parce que tu vois, par exemple, quand sur une MPC, tu pouvais sampler que 12 secondes. Donc, quelque part, ça te force à la créativité. Tu vois, d'une autre manière. Parce que t'as pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, tu vois, pour composer.
Tu veux dire que le fait qu'il y ait moins de contraintes aujourd'hui, finalement, c'est peut-être un problème presque. C'est que là, il y a de trop grandes libertés et du coup.
Ouais, c'est pas que c'est un problème. C'est de savoir ce qui est bon pour soi, en fait. Parce que il y a une opulence, tu vois, d'infos et de trucs et machin, et c'est juste de savoir ce qui est bon pour toi. Et nous, à l'époque, ce qui était bien, c'était ça, c'était que, attention, je rentre pas dans le truc de d'ambiance, tu vois, genre c'était mieux avant. Non, pas du tout, tu vois, toutes les époques tuent, je trouve, et là ce qu'on vit en ce moment, c'est ouf aussi, mais en tout cas, ouais, ça forçait à ça, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai ressorti encore mes kits de l'époque et tout, que j'ai toujours, tu vois, mes kits de batterie et tout. Et j'ai envie de me remettre encore à la MPC, tu vois. Là, en ce moment, j'y pense depuis quelques temps, tu vois, de reproduire encore sur la MPC. Parce qu'il y a un truc, tu vois, Kanye jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il fait encore et on le ressent, tu vois, dans ses productions. Il y a un truc d'entrée qui est différent parce que lui, il le maîtrise en plus, tu vois.
Il bosse encore là-dessus, lui?
Ouais. Tu vois, il bosse encore sur sa MPC et du coup, t'en reviens au geste simple, tu vois. Alors où je t'ai dit, tout le monde va faire la même chose, tout le monde, tu vois.
Justement, c'est intéressant pour quelqu'un qui se lancerait dans la production, qui commencerait à produire. Tu crois que. Comment tu fais pour pas te perdre, justement, tu sais? Ou pour pas être obligatoirement dans le mimétisme? Parce que le premier truc que tu vas avoir envie de faire, c'est prendre. En ce moment, il y a beaucoup d'instru de trap, c'est un peu la tendance, faire ça et faire exactement la même chose. Tu vois, du coup, c'est difficile de trouver ta patte ou ton style, j'imagine. Après, ou de ne pas te perdre dans tout ce qui existe aussi comme techno.
Après, je pense qu'au-delà d'un aspect purement technique, je pense que c'est avant tout ta culture musicale qui fait la diff. Tu vois, moi, je connais plein de mecs en fait, qui ont une culture musicale de ouf et qui, sans le savoir, tu vois, pourraient être des super compositeurs ou des super réals. Tu vois, parce que c'est juste que je pense que c'est une question de vision, en fait. Tu vois, il faut que tu aies une vision et que tu ramènes ta signature.
C'est-à-dire que plus tu as d'éléments, plus tu es capable de faire quelque chose de différent, c'est ça?
Ouais, plus tu as d'éléments en tête, en fait, plus tu te nourris de ta culture personnelle, tu vois, ta culture musicale, et plus tu es en mode, tiens, là, tu sais quoi, je vais aller chercher ce petit truc-là, tu vois, j'ai bien aimé ça, tiens, je vais. Tu vois ce que je veux dire? Et mélanger à chaque fois tout ça.
Tu penses que toi, le fait que tu aies été DJ, justement, quand tu commençais,
ah ouais,
ça a aidé, ça?
Mais complètement.
Ouais.
Complètement, parce que ça. Et ça m'aide encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ça m'aide tous les jours, parce que c'est dans ton subconscient. T'as tellement consommé de musique, si tu veux, tellement de trucs que, tu vois, t'es. Même sur des accords ou sur des trucs ou des machins, sur un morceau, tu vas direct. Tu vois, aller dans un truc différent. Après, moi, je pense que ce qui a fait ma force et ce qui fait toujours ma force aujourd'hui, c'est que j'ai toujours revendiqué un espèce d'éclectisme, tu vois, dans ma musique. Parce que j'ai jamais fait qu'un seul style, en fait, tu vois. J'ai essayé à chaque fois d'amener des trucs différents.
Ouais, d'ailleurs, t'es passé de, par exemple, si je me trompe pas, 2003, je crois que t'as dû faire Bâtiment C de Booba en 2003.
Ouais.
Puis juste dans la foulée, t'as fait M Pokora en fait.
Ouais.
Donc il y avait des trucs vraiment différents, quoi. Mmh. D'ailleurs, t'as été, il y a des gens qui t'ont embêté un peu avec ça, je crois. Ou...
Ouais. Après, tu sais, ce truc-là, c'était fait sciemment en fait de ma part. Parce que tu vois, j'aurais pu être.
Ouais, j'aurais demandé ça, ouais.
J'aurais pu être gosse, tu vois, sur le truc de Matt Pokora. Mais ce que je me suis dit, c'est que d'entrée de jeu, encore une fois, tu vois, en termes de vision, c'est comme tout le monde fait la même chose. Moi, je me suis dit que, à l'époque, tu vois, il fallait se faire connaître d'une autre manière et casser les codes d'entrée. Et l'idée, c'est que je trouvais ça super marrant d'un regard extérieur, tu vois, de faire Bâtiment C, qui était pour moi un des morceaux les plus. Glacial, tu vois, de Panthéon, et en même temps de faire ce truc. Mm. Parce que du coup, ça amenait un débat, ça créait des petites espèces de polémiques, tu vois, dans le microcosme, tu vois, parisien, tout ça et tout, et je trouvais ça vraiment, moi j'ai toujours kiffé ça, en fait.
Et tu penses que ça a joué aussi dans ta longévité, peut-être le fait d'avoir essayé plein de trucs différents qui fait que t'es plus adaptable?
Ouais. Mm. Bah ouais, je pense. Je pense, mais après, c'est encore une fois, c'est pas par comment je pourrais dire ça, c'était une réelle envie de ma part, tu vois. C'est pas par dépit, tu vois, ou même par ou même d'un point de vue financier, tu vois. C'est même pas ça. C'est vraiment dans ma tête. Je me disais, voilà, moi j'avais des exemples aux États-Unis, tu vois, qui
ouais, comme les Neptunes,
voilà,
par exemple.
Comme les Neptunes.
Ouais, ils ont fait quoi? Ils ont fait plein de trucs pop, etc.
Voilà, ouais. Tu vois, ils pouvaient faire Slave de Britney Spears, tu vois, et revenir avec Snoop ou.
Ouais, mais justement. Comment tu faisais, toi, par exemple? Mettons, tu produis un album très underground, et ensuite tu vas produire un truc plus mainstream, et mettons que le truc plus mainstream va forcément vendre beaucoup plus, disons, ou soit beaucoup plus populaire. Comment tu fais pour ensuite pas avoir envie d'introduire du mainstream dans ton truc underground, tu vois, ou pour pas te, tu sais, pour avoir l'impression de rester intègre dans chaque délire séparément, tu vois?
C'est pas une histoire de rester intègre, en fait. Tu vois? C'est pas une histoire de rester intègre parce que, j'estime que mon intégrité, tu vois, elle a jamais été ébranlée une seconde.
Non, c'est pas ce que je disais.
Non, je sais, non, okay. J'ai compris, t'inquiète. Mais justement, je t'explique, c'est que, au contraire, c'est que, justement, quand t'as des trucs comme ça qui marchent, à côté de ça, t'es encore plus, tu vois, sans compromis dans ta manière de produire.
Pourquoi?
Bah, parce que t'es pas soumis à un truc, tu vois, de tu vois, d'une pression financière, tu vois, de se dire, voilà, putain, là, il faut que je rende du bif, ou il faut machin, il faut truc. Comme t'es déjà bien, du coup, dans ta musique, tu sais, t'es large, tu vois ce que je veux dire, tu tentes ce que tu veux, parce qu'il n'y a pas de problème. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, je comprends bien. Ouais.
Et du coup, ça se ressent encore plus dans tes productions et dans la qualité du truc, tu vois. Tu vois, Bâtiment C, ou à l'époque, je pourrais te dire, comme autre exemple, je pourrais te donner la Faucheuse, tu vois.
Ouais.
C'est des morceaux Puis pour ceux qui nous connaissaient et qui me connaissaient de l'époque, quand la prod allait comme ça, tu vois, aussi minimaliste, c'est pas par dépit, c'est par envie.
Mm.
Tu vois, et ce truc-là, il n'y a pas plus vrai, en fait, dans la démarche. Tu vois, dans la manière de créer, de laisser un truc comme ça et dire, voilà, bah, tu sais quoi, nous, c'est notre proposition et on va rien bouger, en fait.
Mm.
Tu comprends?
Ouais, je comprends.
Et ça, c'est aussi parce que c'est une liberté que tu as et un luxe, parce que tu as des trucs qui marchent à côté, tu vois.
Et c'est un truc obligatoire d'avoir des trucs qui marchent pour pouvoir être bien artistiquement, pour pas avoir justement la pression de faire les choses, tu vois, de justement pouvoir aller au bout de ton délire artistique sans penser à tout ça, tu vois. Parce que toi, t'as eu des trucs qui ont marché assez vite finalement.
Mais aujourd'hui, je te dirais non parce que chacun trouve son flow, tu vois. Et chacun est dans son business model à lui qui lui correspond, tu vois ce que je veux dire. T'as des mecs qui vont bâtir leur image et leur son et même leur Nesby d'une manière générale, tu vois, juste sur une sortie SoundCloud, tu vois, qui n'est même pas payante, mais du coup sur ce que ça, les répercussions sont autres, tu vois, et c'est une autre manière de bosser. Et puis après, t'as des mecs qui vont être vraiment que dans le truc de pop, de, tu vois, de faire des gros hits et de machin, et ça marche aussi pareil. Parce qu'aujourd'hui, même si on doit parler de l'urbain d'une manière générale, je pense qu'il n'y a pas de, on peut pas considérer ça comme un seul courant, tu vois. C'est vraiment une mise en abîme où dedans il y a plusieurs ramifications, il y a plusieurs styles, et donc qui dit plusieurs styles dit plusieurs publics. plusieurs typologies de producteurs, plusieurs typologies de rappeurs, plusieurs, tu vois, et je pense que selon les projets, bon, des fois quand t'es dans le spectaculaire, tu vois, bon, bah, alors c'est tout qui est spectaculaire, tu vois, c'est que ce soit SCH ou la Crime, ou tu vois, ou là c'est autre chose. Et après t'as des projets, tu vois, sur une économie, tu vois, limite sans pression, beaucoup moins de pression, mais qui est super bien géré, tu vois, sur des projets genre, je sais pas moi qui je pourrais te dire comme ça en tête. Chacun trouve son flow en fait, tu vois. Tu prends un projet comme Demi Portion, tu vois, ou Lampal, ou PLK, ou tu vois, PLK, tu vois, avec qui je bosse aujourd'hui, tu vois, je vois dans son économie comment, tu vois, avec Antoine, tu vois, comment c'est fait, comment, tu vois, et c'est cool. Comment... C'est cool, tu vois.
Ouais, je vois, mais comment tu fais pour choisir les projets justement, toi? Enfin, comment tu dis non, ou comment tu sais que c'est pas pour toi?
Faut que ça me parle.
Ouais.
Il y a franchement, il y a pas vraiment de recette, tu vois. Faut que ça me parle. Faut que ça me parle, et faut que j'ai l'impression de me rendre utile. Tu vois, faut que je sente que je me rends utile, et que je veux ramener dans un projet où on m'attend pas. Je veux ramener un peu le truc, un peu next level, tu vois, de dans ce projet-là.
Ça t'est arrivé de pas te sentir utile justement sur des projets?
Ouais, il y a quelques projets où franchement, tu sais, t'as la mentalité de groupe, on est là tous ensemble et tout, puis on se laisse embarquer dans le truc, et puis au final il se passe pas grand chose, tu vois. Et parce que j'aime pas les projets où on pense que, tu vois, parce qu'il y a moi, genre il y a Core ou je sais pas quoi, tu sais, c'est tout de suite ça va breaker, et que tout repose sur toi. C'est un échange, c'est un débat, tu vois. C'est l'artiste, il doit me donner aussi un peu, tu vois ce que je veux dire. Et quand il y a cet échange là, bon, en général ça marche.
Parce que toi, maintenant, t'as aussi un rôle un peu de... T'as complètement un rôle de direction artistique, quoi, sur les projets.
Ouais.
T'es pas... Parce que quand on dit producteur, on pense aussi... On pense un peu beatmaker, tu vois. Genre, le mec qui envoie ses prods, le rappeur pose dessus, il renvoie la prod, tu vois.
Ouais.
Et toi, t'es très impliqué dans les projets.
Ouais, je m'implique au maximum, moi. Je m'implique au maximum. Mais en fait, c'est plus parce que... À chaque fois, j'essaie, je t'ai dit, de ramener une vision, de ramener un délire. Et d'un truc qui va rester. Tu vois, de d'avoir une empreinte où tu dis dans 2-3 ans tu le réécoutes, tu sais, ça se tape pas la honte en fait, tu vois, le truc il est bien, et voilà. Après ouais, j'ai carrément ce rôle là aujourd'hui. Mais je me suis jamais réellement considéré comme un, tu vois, comme un beatmaker, tu vois. C'est juste beatmaker.
Parce que t'étais
ça.
Déjà DJ aussi, tu penses?
Ouais, parce que j'étais déjà DJ, et puis surtout parce que je donnais pour moi la juste valeur, tu vois. J'accordais en fait la juste valeur, tu vois, à ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est souvent ce truc de beatmaker, ou un peu de truc de, tu vois, de borné dans son truc, t'amène un peu vers un truc, tu vois, un peu autarcique, ou t'as un peu une oreille hitlérienne, tu vois, où t'aimes plus rien, ou machin. J'ai jamais voulu être là-dedans, moi, tu vois. Je peux aller à un concert de jazz, je peux aller à un concert de rap, je peux aller, tu vois, et juste regarder et aller prendre des trucs, tu vois. Je suis plus une éponge, tu vois, comme ça. Et après, ramener ça à ma sauce, en fait.
Et t'avais toujours, quand t'as commencé à composer, et après, il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis, notamment, il y avait ton duo avec Scalp et tout, et t'avais toujours l'impression de progresser à ce moment-là? Parce que du coup, c'est très relatif en art, la notion de progrès, un peu, tu vois. Genre, par exemple, si tu fais des films, de savoir si ton deuxième film est meilleur que ton premier. Et toi, est-ce que tu avais le sentiment que tu progressais sur le... en voyant passer les albums, etc.?
C'est une bonne question. C'est pas... Comment je pourrais te dire ça? J'avais pas l'impression de... C'est pas une impression de progresser. C'est plus de l'assurance que tu prends, en fait. Plus que dire progresser, tu vois. Tu prends de l'assurance parce que même quand j'avais déjà des gros hits qui tournaient, tu vois, je faisais toujours ce complexe d'infériorité par rapport à un mec, tu vois, qui aurait fait du solfège et qui...
Toi, tu faisais pas d'instrument?
Non, moi, ce que j'entends à l'oreille, tu vois ce que je veux dire, je le joue, tu vois. Mais je suis pas du tout, tu vois, je suis pas du tout un virtuose, tu vois. Voilà, et au final... C'est devenu une arme, en fait. C'est devenu une arme parce que tu t'aperçois qu'encore une fois, La musique, c'est juste, tu te nourris, tu vois, ta culture, et t'essaies de progresser, c'est avoir de l'assurance dans le process, tu vois, de comment tu vas retranscrire ce que t'as dans la tête, vraiment comme toi tu l'as dans la tête, tu vois ce que je veux dire?
Tu veux dire, arrive à le coucher sur, j'allais dire sur papier, mais pas forcément, mais exactement comme tu l'as dans la tête, quoi.
Voilà.
Sans compromis ou sans. Et ça, t'as progressé au niveau de l'assurance là-dessus, c'est ça?
Ouais, ouais.
Parce que même quand t'avais genre TDSI, etc., qui sont sortis, t'étais pas 100% sûr de toi ou
ça? Ouais, j'étais archi pas 100%, j'étais archi pas sûr de moi. Parce que pendant longtemps, ça a été ce truc-là, tu vois. Tu vois, déjà, même quand tu commençais à l'époque, justement, dans ce truc de beatmaker, tu vois, où j'étais, quand t'avais ta MPC et quand il y a des premiers gars qui sont arrivés, tu vois, avec un clavier, c'était un blasphème. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ça quand même, tu vois, à l'époque, tu vois, de ce truc de tu sais, le rap, il y a pas de piano, tu vois, tu samples et tu vois, j'ai connu cette époque là moi. Et donc du coup, si tu veux, quand j'ai vu l'apport, tu vois, que ça apportait, c'est là où tu te dis, putain, ouais, mais moi j'ai pas fait ça. Et au final, du coup, c'est qu'après que tu comprends que ça va être une de tes meilleures armes.
Comment tu le comprends, ça?
Bah, parce que t'es pas soumis, si tu veux, à des t'es pas soumis, tu vois, à des règles, tu vois, à te dire, ouais, non, t'as pas le droit de faire ça parce que ça se fait pas, parce que tu vois.
Tu penses que si t'as appris le solfège, par exemple, il y a des règles que tu vas pas casser.
Je pense que je serais resté Keblo, tu vois, dans un truc. Et à preuve du contraire, je connais pas un prof de musique ou machin qui fait un hit, tu vois.
Ouais.
Par exemple. Et du coup, j'en ai fait ma force. Il y a eu ça, et puis, regarde jusqu'où ça a été, ce truc-là, dans le côté décomplexé après. Ça a été jusqu'à Taxi 3. Et pourtant, j'avais déjà fait pas mal de choses. Taxi 3, je me rappelle, quand on fait Taxi, il y a les Neptunes, tu vois, qui sont là.
Parce que vous êtes dans le château de Luc Besson, c'est ça?
Nous, on est dans le château de Luc Besson, mais les Neptunes sont à Paname, en fait. Ils sont au studio, je sais plus dans quel studio ils étaient.
Donc, les Neptunes, pour rappeler, c'est Pharrell Williams et...
Et Chad Hugo.
Voilà.
Et à l'époque, j'ai réussi à me procurer la session, en fait, Pro Tools. Donc, c'est la session d'enregistrement, tu vois, des gars, avec toutes les pistes en séparé. Et là, en fait, c'est tout qui, tous les clichés qui volent en éclats, tu vois. Mais dans le bon sens du terme.
Comment ça?
C'est-à-dire que quand tu prenais chaque piste séparée, tu vois, je me rappelle que, par exemple, le son du kick, ils avaient pris une espèce de cloche, tu vois, qu'ils avaient un son de cloche, en fait, tu vois, qu'ils avaient trituré un petit peu pour que ça donne le son du pied. Et il y a plein de trucs comme ça, tu vois, dans la session où quand t'écoutes en solo, c'est des trucs qui ne sonnent pas, en fait. Mais c'est quand tout est joué ensemble qu'il y a la magie du truc. Ce qui m'a emmené après à un deuxième déclic, où quand j'ai vu ça, j'étais content, tu vois. Je me suis dit, ok, bon, en fait, il n'y a pas de règle, tu vois. Tu fais comme t'as envie. Et le deuxième truc qui m'a amené à ça, c'est que j'avais lu dans la bio de Quincy Jones, il avait sorti un livre, et dedans, il dit un truc qui, pour moi, quand tu le comprends, en fait, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire qu'il dit, ce qui compte, c'est pas les notes, c'est les placements des notes. Et du coup, quand tu penses justement placement des notes, et quand je revois par exemple la session, même visuellement, tu vois, la session de Neptune, tu vois que c'est un pulse, en fait, tu vois, où tel truc joue à tel endroit, et que si les deux instruments jouent ensemble, il y aura une espèce de dissonante, tu vois, pas belle, tu vois, à l'oreille, rien de cool. Et au final, j'en ai fait ma force. Je pense.
En fait, c'est quelque chose que tu as fait beaucoup à l'instinct, quoi.
Ah ouais, complètement, mais tout le temps.
Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu développes un peu des visions, quoi, mentales de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et ça, ouais, ça t'aide à progresser, c'est ça?
Ouais.
Je me demandais aussi, est-ce que t'as remarqué, à force de bosser avec des artistes, des points communs, disons, entre ceux qui allaient réussir et rester longtemps et ceux qui restaient moins longtemps? Parce que t'as dû voir passer tellement de monde, en fait, je me dis que...
Des points communs, ouais, je dirais la détermination. Tu vois, la détermination ou la nonchalance, tu vois, par rapport à un talent inné, tu vois ce que je veux dire, qui est là,
T'en as vu, t'as l'impression de voir des talents innés parfois.
Ouais, j'en ai vu. Tu vois, je pourrais te donner un exemple, je pourrais te donner Booba, comme je pourrais te donner CH. Tu vois, c'est des trucs où, voilà, tu sais, dans... c'est fluide en fait. Tu sens que c'est pas fait dans. C'est un taf.
Ça bosse aussi, ouais, derrière.
Voilà, c'est un taf. Mais il y en a pour le même taf, si tu veux, ou le même temps passé, il n'y a pas le même résultat. Et donc, il y a cette nonchalance-là, tu vois. Et après, tu as ceux qui arrivent, et c'est une autre forme de talent, tu vois, par leur acharnement et leur envie de réussir.
Et tu vois des. Enfin, en fait, est-ce que c'est. Il y a encore des mecs aujourd'hui qui sont un peu. Qui vont tout faire, un peu comme faisait Kanye quand il a commencé, tu vois, qui vont faire les instrus, qui vont faire les textes. T'en croises des mecs comme ça ou pas?
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Parce que j'ai l'impression que maintenant, les gens se spécialisent, écrivent à fond, les producteurs produisent à fond, tu vois. Du coup, t'as les gens qui sont les excellents dans chaque domaine, un peu, tu vois.
Ouais.
Et je me demandais justement, est-ce que tu crois que c'est possible de faire les deux en même temps, quoi? De possible de devenir bon en faisant les deux en même temps, tu vois?
En faisant les deux en même temps?
Ouais, en produisant et en faisant les textes, tu vois.
Ouais, c'est possible.
Ouais.
C'est possible. Après, je pense que.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tout dépend, si tu veux, du curseur, tu vois, là où tu le mets, tu vois, sur la définition, tu vois, si c'est à un moment donné, c'est un gros succès, tu vois, bah, naturellement, tu sais, tu changes. Tu changes de lifestyle, tu vois, à moins que tu arrives à chaque fois, tu sais, à te préserver du truc et à partir loin et à être à côté de ça et, si tu veux, de rester dans le geste simple de ce pourquoi tu es arrivé là, tu vois,
ouais.
Ou comment tu y es arrivé. Mais en général, je pense que c'est un truc, qui, tu vois, même Kanye, tu vois, Kanye, il bosse. Mais il y a une grosse partie, tu vois, que il y a une grosse partie qui est faite par Mike Dean. Moi, souvent, le combo Kanye qui marche pour moi, c'est souvent quand il est avec Mike Dean, parce que voilà, ça donne graduation, ça donne, tu vois, ça donne des projets, franchement, où le mec, moi, c'est Mike Dean, c'est un de mes producteurs préférés, tu vois. Je trouve qu'il a un truc qui est incroyable. Et tu le sens, tu vois. Tu le sens direct, tu sens le truc puissant. Et lui-même, dans le parallèle, ça me fait penser à moi, dans mon parcours en France, si tu veux, c'est que c'est un mec qu'on a connu à l'époque de rappeurs au state, tu vois, de Jamal, tu vois, avec des rappeurs comme Jamal, avec des morceaux comme Illégal et tout, de voir qu'il était déjà dans les crédits de ce truc-là, tu vois, qui a presque 20 ans. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui a encore fait le dernier album de Travis Scott. Tu vois, c'est encore une fois, ça nous prouve bien que c'est plus qu'une histoire de trends, tu vois, c'est une histoire de culture, en fait.
Et le travail aussi, peut-être, non?
Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui lâchent pas, quoi.
Ah ouais, c'est clair.
Lâchent jamais.
Moi, je lâche pas.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas, tu penses?
Ce qui fait que je lâche pas, c'est que déjà dans mon lifestyle, à moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Depuis les périodes où tu as commencé, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que quand je dis il n'y a pas grand-chose, c'est que, encore une fois, même si je suis connu, on pense pas tout le temps à m'appeler moi, tu vois, pour des trucs, ou on m'appelle pour ce que je sais faire. Mais normalement, si tu veux, je dis pas, non, c'est pas, même pas une sorte de normalité, mais par rapport à tout ce que j'ai fait, tu vois, ça pourrait déborder sur pas mal d'autres choses, tu vois, et du coup, j'ai un truc que j'ai gardé où je me sens plus proche, en fait, des gens et, entre guillemets, du peuple, tu vois, d'un truc un peu anonyme, qui fait qu'en fait, et puis comme je suis tout le temps dans mon studio, qui fait qu'en fait, t'es tout le temps en train de réanimer la, la magie du débutant, tu vois, parce que je suis un peu solo dans mon truc, et du coup, j'ai pas un milliard de trucs qui me détournent de ce que je fais.
C'était conscient ou c'est juste que ça t'attirait pas, les autres trucs?
Deux.
Bah, tu dis, t'as pas un milliard de trucs qui te détournent.
Ouais.
T'aurais pu avoir un milliard de trucs qui te détournent.
Ouais.
Y a déjà des périodes où t'as eu l'impression justement de moins pouvoir faire ce que t'aimais faire et d'être en train de faire d'autres trucs que t'avais moins envie de faire?
Non, pas vraiment. Franchement, j'ai toujours eu la chance, en fait, de travailler avec des gens qui m'ont toujours fait confiance, tu vois. Et qui m'ont laissé m'exprimer dans ce que je faisais. Tu vois.
Parce que, genre, vers 2010, t'es parti aux États-Unis.
Ouais.
C'était que t'avais besoin de te réinventer ou...
Ouais, complètement. Complètement. En fait, je suis parti aux États-Unis parce que je me rappelle à l'époque, j'avais fait le concert de Ryan B à Bercy. On était sold out et passé justement l'adrénaline du truc, tu vois, le dimanche matin, j'étais dans un truc de reconnaissance, mais même pas pour moi, tu vois, plus par rapport à un mouvement et un flow, tu vois, qu'on avait ramené, où je me dis, il s'est rien passé, tu vois, c'était quand même extraordinaire de réunir tous ces gens-là, tu vois, à Bercy. Aujourd'hui, c'est vachement plus démocratisé, tu vois, tu prends Bercy presque comme, tu vois, c'est un peu plus, c'est moins épique que par rapport à l'époque.
À l'époque, c'était plus fou de remplir Bercy.
Ah ouais, mec, c'est, tu vois, il n'y avait pas les moyens de promotion qu'il y a moyen maintenant, il n'y avait pas les... Et on l'a rempli, tu vois, on l'a rempli et donc passer l'adrénaline du concert et tout, je m'étais dit, tu vois, le matin, le lendemain, tu vois, je voulais faire en sorte que ce truc-là fasse que la chambre d'écho, elle soit plus grande encore sur ce mouvement et sur un truc de où les gens se mélangent, tu vois. Et en fait, il s'est rien passé de spécial, tu vois, c'était un beau concert et tout, mortel. Et du coup, ça m'a saoulé un peu et le mardi, je me suis barré, en fait. J'ai pris mon billet d'avion et je suis parti.
C'est une idée que tu avais en tête depuis longtemps?
C'est une idée que j'avais en tête, mais je suis parti sur un coup de tête. Tu comprends? C'est-à-dire que là, je me suis dit, si je le fais pas là, je veux pas y aller, en fait.
Et tu te disais quoi? Tu te disais, je veux bosser différemment ou je veux avoir de nouveaux trucs ou...
En fait, je sentais que J'avais un besoin, tu vois, en termes de peur, de revenir, tu vois, de revenir encore plus fort, en fait. Parce que je voulais pas que les gens pensent que, tu vois, je m'endormais, tu vois, dans ce truc de R&B ou ce truc pop ou machin, parce que j'ai toujours été dans un truc où je faisais les deux, si tu veux. Et du coup, quand je suis parti aux États-Unis, bah ouais, ça a été, j'ai même pas prévenu mes partenaires de l'époque. Je te parle des maisons de disques avec qui je travaille ou quoi.
Ah ouais, tu l'as dit à personne.
Ouais, je suis parti. Je t'ai dit, je voulais vraiment faire ce truc d'un mec qui a tout à se prouver, tu vois, et qui part avec son petit sac et qui va voir un peu ce qui se passe.
Ça te stressait ou pas?
Oh, pas du tout.
Parce que là-bas, tu voulais bosser avec Rick Ross en plus. Elle est marrante l'histoire de. Enfin, je crois qu'il m'a semblé entendre un bout,
ouais,
de l'histoire de comment tu l'as rencontré.
C'est la vérité, hein, c'est passé comme ça.
C'est que. T'avais vu un clip avec un magasin de montres, c'est ça?
Ouais.
Tu peux me le raconter ou...
Ouais, si tu veux. Bah, en fait, quand je suis parti là-bas, je suis arrivé, donc j'ai loué les gros studios d'enregistrement, tu vois, les grosses caisses, tu vois, grosse bagnole, machin et tout, mais c'est pas mon flow, en fait. Donc, ça peut pas marcher.
Ouais, c'est ce que tu me disais juste avant, ouais.
Tu vois, ça peut pas marcher comme ça, en fait. Et du coup, je suis retourné à l'hôtel et tout. Je me suis dit, putain, j'ai loupé un truc. Tu vois, je veux bosser avec ce mec-là, moi, en fait. Tu vois, donc, comment je peux faire? Et là, je revois toutes ces vidéos et tout. Et donc, il y a une de ces vidéos où il va chez son joaillier. Et il referme la porte, en fait, et il y a l'adresse. Et je suis à Miami. Il est à Miami, en fait, tu vois. Et donc, je vais là-bas. Et je vais direct là-bas. Et bon, tu sais, les Ricains, avant de... Tu vois, faut que tu montes pas de blanche, en gros, faut que tu montes que t'es là, quoi, tu vois. Donc, t'arrives dans un truc d'horlogerie, de joaillerie, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? T'achètes une montre, tu vois. J'avais déjà un budget que j'avais préparé pour tout ça. Et...
Pour acheter la montre? Bon, t'avais anticipé, quoi.
En fait, déjà, j'aime bien les montres, mais j'étais pas spécialement parti pour m'acheter cette montre-là, tu vois. Mais je me suis dit, je pense qu'il y a que comme ça qui va me prendre au sérieux, le mec, en fait. Donc, j'ai acheté la montre, et là, du coup, j'étais un super client. Gros sourire, tu vois, et là j'explique au mec, en fait, je dis, en fait, c'est la montre, ouais, je l'ai achetée, mais c'est cool, elle est mortelle et tout, mais je suis pas venu pour ça, en fait. je dis voilà, moi je fais de la musique, je suis compositeur, et j'étais tombé sur le père du gars en fait, et je dis j'aimerais rencontrer ton fils et lui proposer un truc, et ce qui m'a réconforté, c'est qu'il a éclaté de rire, et en me disant depuis que mon fils en fait a posté ses vidéos, les gens pensent que c'est un studio ici, tu vois, d'enregistrement, donc ça m'a réconforté dans le truc. Je me dis tiens, finalement l'idée elle est pas conne, ouais, ouais. Tu vois, il y a pas non plus 200 personnes qui l'ont fait, mais et je dis ok, je dis bah il y a peut-être des gens qui l'ont fait, je lui dis tu vois, mais moi je viens de loin, je viens de très loin, et là d'où je viens, j'ai réussi quand même pas mal de trucs, et si vous me donnez votre chance, tu vois, ma chance pour pouvoir rencontrer Rick Ross en fait, et ben on travaillera ensemble, tu vois, on trouvera une manière de travailler ensemble. Les Ricains, c'est vachement ça, tu vois, donc et donc de là il m'a introduit à son fils, qui lui m'a introduit au banquier privé en fait de Rick Ross. Donc quoi de mieux, tu vois, pour le rap finalement, d'avoir le private banker à gauche et le joaillier à droite.
Ouais, c'est pas mal.
t'es dans le truc de fou en fait, tu vois. Il y a pas mieux, c'est mieux que de parler au manager limite, tu vois. Ouais, ouais. C'est et donc de là le mec vient, machin, je te la fais courte, le mec écoute mes sons. C'est devenu mes amis proches après. Hein. Tu sais que je leur rappelle encore comment
je t'ai raconté
un peu au début, tu vois, avec quand je suis arrivé. Tu vois, c'était vraiment le truc, c'est un peu théâtral, tu vois, ils étaient un peu froids, machin, et bref. Et du coup...
Tu veux dire Rick Ross et son équipe et
non, non, avant de rencontrer Rick Ross, je te parle de ces gens-là.
D'accord, le banquier privé, etc. Voilà.
Et donc le mec, après, me demande mon numéro, je lui donne, il me dit, écoute, je te rappellerai. Et le gars me rappelle 3 jours après, et donc on part en caisse et tout. Quand je suis très théâtral, c'est que le mec me dit rien en fait.
Ouais, comme dans les films.
Je suis dans la voiture, tu vois, je suis là, et en fait le cub me dit rien du tout, tu vois. Et donc comme je me butais à Rick Ross et à tout ce qu'il faisait, machin et tout, donc à un moment on arrive dans une espèce de résidence privée, tu vois, et je reconnais direct le truc parce que j'ai vu tous les behind the scenes, tous les trucs qu'il fait, machin et tout, et là je dis ok, bon, je suis dans le truc, tu vois. Et donc là, j'arrive et tout. Et pareil, tu sais, c'est là, je l'aurais ressorti en plus, il n'y a pas longtemps, en rigolant. Et là, le mec me dit, tu sais, je suis là et on arrive devant la porte. Donc, je me mets derrière lui. Et mon pote me dit, qui est devenu mon ami, hein, donc c'est pour ça que je dis mon pote, mais il me dit, vas-y, sonne. Tu vois, genre truc de ouf, tu vois. Je trouvais ça tellement rama à l'époque. Et donc, je sonne. Et là, c'est Rick Ross qui m'ouvre, en fait. Donc, Rick Ross, il était... Je sais pas combien de blunt il avait fumé, tu vois.
Ah ouais?
Ouais, il était complètement fly. et on va dans son bureau et je lui mets des prods et il écoute. Et à un moment donné, je sens que ça se détend, tu vois. Et il esquisse un petit sourire sur une prod. Et là, il regarde Jesse, donc le monkey, il lui dit en anglais, il lui dit ouais. Il lui dit this shit is serious, tu vois. Genre, ouais, c'est pour de vrai, genre, tu vois. Et donc de là, dès que les gars ont vu que c'était pour de vrai, après moi j'ai repris le lead sur la situation, tu vois, en leur expliquant bon maintenant que vous avez vu, maintenant vous allez me laisser faire comme moi je veux faire et vous allez voir qu'on va arriver à des trucs plutôt cool. Et j'ai commencé à placer mes prods et ils m'ont accompagné et j'ai découvert une autre manière de produire, tu vois, aussi là-bas. C'est là où je suis revenu plus fort, je pense, ici.
C'était quoi la différence?
La différence, elle était basée déjà sur le, si on doit parler de, en termes de fatness, de son, elle était basée, parce que c'était les débuts de, tu vois, de ce producteur, de Lex Luger, en fait, qui avait ramené un vrai son avec un sub de fou. Un sub, en fait, c'est le 808, tu vois, une espèce d'infrabasse que t'entends dans les morceaux, où au final, d'un point de vue technique, si tu veux, c'est, si tu l'as pas, tu peux être le meilleur des compositeurs, tu vois. Si tu l'as pas, tu corresponds pas au format. Parce que là-bas, la musique se consomme différemment, tu vois. Ils ont des sub-bass partout, dans leur salle de bain, dans leur voiture. Et puis ça se consomme vachement. Le rap se consomme vachement par les strip clubs, tu vois. Donc c'est une autre culture. Et pendant longtemps, tu vois, j'ai cru que moi, je l'avais, tu vois, ce sub, et je l'avais pas, tu vois. Donc j'avais quand même réussi à bosser.
Du coup, tu avais un genre de son proche de ça, mais qui n'était pas exactement ça.
Ouais, et du coup j'étais dans la un espèce de parcours initiatique, tu vois, dans la quête du
la quête du sub.
La quête du sel, tu vois, c'est la quête du sub, mec. Tu vois, j'allais voir des ingés, j'allais voir l'ingé de Farrell, l'ingé de l'autre, là. Tu vois, Farrell, il a jamais trop été dans cette culture du sub, c'était encore un autre truc, tu vois. Mais pour moi, la musique que je visais, il me fallait ça. Et donc voilà, tu vois, j'ai sympathisé avec plein de mecs. Et c'est un peu une recette coca, tu vois, que tu veux pas trop donner, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a coûté 2-3 paires de Jordan, tu vois, que j'ai acheté à des gars, des trucs, des machins.
D'accord, ils font vraiment rencontrer les bonnes personnes,
ouais,
pour avoir un peu la recette de la...
Ouais.
D'accord.
Et dès que j'étais...
Ça se trouve pas sur Internet, quoi, ça.
Bah si, ouais, il y a des tutos, des trucs, mais après, je t'ai dit, c'est chacun, tu vois.
Ouais.
Chacun, il a son truc, parce que le sub, c'est un truc particulier, tu vois, c'est... Si tu veux, c'est comment avoir un son fat sans qu'en fait, ton sub... comment je pourrais te dire ça, sans que ton sub étouffe toute l'orchestration autour de ton son, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences, des trucs où il faut que t'entendes tout, en fait. Et du coup, après, je l'ai... Là où j'ai compris que ça allait être difficile pour moi, j'avais fait un morceau avec T-Pain et un rappeur, un local de Miami qui est un super ami à moi qui s'appelle Billy Blue, où le mec était produit par Timbaland. Et les Quinry, tu sais, quand ils pensent avoir un hit, ils sont très dans We Celebrate, tu vois. Et en fait, on était dans le studio, donc il y avait toute l'équipe, il y avait E-Class qui est vraiment une tête de la Floride, tu vois, une personne emblématique là-bas qui produit en même temps Rick Ross, Florida, Pitbull, tu vois, c'est vraiment quelqu'un d'important là-bas. Il était là dans le studio, champagne, tout, machin et tout, tu vois. Et moi, j'avais cette boule au ventre parce que je regardais l'ingé, en fait. Et à un moment donné, l'ingé se retourne vers moi et tu vois, je sors avec lui dehors, je lui dis, c'est le sub. Il me dit, ouais. Et j'étais comme un ouf, tu vois, je me dis, putain, mais expliquez-moi, tu vois, qu'est-ce qui me manque, et là il m'a expliqué, il avait des trucs à lui de, comme il m'a trouvé cool, tu vois, il avait des trucs à lui en fait de safety, tu vois, de sub pour refaire sonner le truc, et du coup je suis passé à ça, tu vois, et après ça c'est devenu vraiment vraiment super important pour moi.
Et après ça t'as taffé beaucoup là-dessus, c'est ça?
Ouais, j'ai taffé là-dessus, après je l'ai eu, tu vois.
Et c'est un truc ensuite que t'apprends aux gens qui bossent avec toi, etc. En Ou est-ce fait, que c'est un peu ton secret
Ça l'a été pendant un moment, mais ouais. Aujourd'hui, tu vois, t'as plein de ça y est, tu vois, c'est... Les compositeurs, ils l'ont, tu vois, il n'y a pas... Les compositeurs l'ont, et puis après, je pense que c'est des périodes aussi, tu vois. C'est des périodes. Moi, aujourd'hui, je l'ai, c'est là, quand j'en ai vraiment besoin, tu vois, sur tel ou tel projet, tu vois, ce que je veux dire, je vais l'utiliser, mais c'est plus une fin en soi, en fait.
C'est intéressant, parce que quand t'es parti aux États-Unis, en fait, t'as un peu fait comme quand t'avais 16 ans et que t'es allé à Châtelet dans un sens, tu es complètement allé au culot, quoi.
Ouais, bah ouais.
C'est un peu, t'as débarqué, t'es arrivé chez Rick Ross avec ton... Enfin, elle est marrante, cette histoire, quoi.
Ouais, bah ouais.
C'est un truc... Est-ce que c'est un truc que tu conscientises sur le côté, il faut être prêt à repartir à zéro ou un truc comme ça?
Ouais.
Que t'essaies de t'appliquer, ça, il y a des moments où tu te dis, là j'ai besoin de repartir à zéro ou j'ai besoin de reprendre du début, un truc comme ça?
Bah ouais, complètement. Tu vois, surtout quand tu passes quand tu passes des périodes. Bon, après, ce qui est cool, c'est quand on est conscient et que tu le prends comme ça, c'est pas ce que ça dégage,
ouais,
chez les gens, tu vois. Donc, les gens trouvent ça encore plus cool aussi. Parce que ils me voient et tout le monde me voit avec mes acquis, mes trucs, machin. Mais en vrai, moi, voilà, tu vois, c'est un éternel recommencement.
En fin de compte, parce que là, on fait quand même, c'est bientôt une heure qu'on est là. J'allais te dire, ouais, c'est quoi ta vie du coup aujourd'hui là? C'est quoi ton quotidien en fait?
Mon quotidien en ce moment, je te mens pas, c'est vachement, on dirait aujourd'hui je suis jeune papa de deux petits garçons, donc ça change un peu la life, tu vois. Mais après au niveau du son, c'est toujours la même chose, tu vois, je compose toujours autant.
Si tu viens ici, tu passes toute la journée ici, tous les jours?
Ouais, sauf que là depuis peu j'ai décidé de lancer mon label. Et du coup, ça me prend énormément de temps parce que c'est un truc super ambitieux, super gros, tu vois, qui va arriver. Et quand je dis label, je te parle d'un point de vue technique, je te parle pas de label deal, tu vois. La plupart des gens dans ma situation vont faire ce qu'on appelle des label deal, tu vois.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont distribués par...
Un label deal, en fait, c'est-à-dire que t'as une maison de disques en partenaire. Et en gros, tu conviens d'un commun accord avec eux de sortir trois projets à l'année, tu vois, où eux sont coproducteurs avec toi, mais en fait, tu utilises toute la force de frappe de la maison de disques. Du coup, moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je serai ma maison de disques avec un partenaire d'une des majors, tu vois, connues, mais pas du tout dans la même approche. C'est-à-dire que moi, je viens avec une équipe ad hoc, avec mon label manager, mon directeur marketing, mes deux chefs de projet, mon directeur artistique. Tu vois, on est une équipe de 8 où en gros, on est un vrai label à part entière. Et moi, mon taf à moi maintenant, c'est que ça me prend un peu de temps parce que j'ai organisé tout ça et je l'ai pensé depuis 3-4 ans, en fait, tu vois, et c'est maintenant que ça arrive. J'avais besoin de finir des trucs, de voir comment tout ça allait évoluer, tu vois, avec l'avènement du streaming, avec plein de trucs et tout.
Pourquoi il fallait le faire comme ça, justement, et pas comme font les autres labels?
Parce que je pense que j'arrive à un stade où je peux me le permettre. Et justement, je trouve que quand tu as une vision, en fait, tu vois, quand tu es en maison de disque, même si on te laisse faire, tu vois, il y a quand même un truc, tu vois, qui vient un petit peu diluer tout ça, tu vois. Tandis que là, t'arrives, c'est vraiment, t'es upfront, tu vois, et t'as ton équipe, et c'est toi qui développes comme t'as envie de développer, en fait. Et quand je dis comme j'ai envie de développer, c'est que l'ADN du label, tu vois, ça va vraiment être le son, en fait. Paradoxalement, c'est pas un label qui va réagir à une part de marché, ou à se dire, il me faut ça.
Ça, c'est ce que font la plupart des maisons de disques,
ouais.
C'est ça.
Moi, c'est, tu vois, même dans la manière dont j'ai sourcé les gars, si tu veux, avant tout, c'est ok, t'as ton CV de, j'ai pris des mecs d'un peu partout, tu vois.
Qu'est-ce que tu regardes d'ailleurs en premier quand tu te demandes si tu vas signer un artiste? Qu'est-ce qui est, parce que il peut y avoir que la musique te plaise, ok, mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments, tu vois.
Ouais, faut que ça ait du caractère, tu vois. Faut que ça ait du caractère, et du caractère, ça peut être aussi que par les silences, hein, tu vois. Tu sais, c'est pas une histoire de, tu sens quand, je sais pas, c'est indescriptible pour moi, mais
est-ce qu'il faut que ce soit clivant, ou est-ce qu'il y a un aspect comme ça, ou
clivant dans quel sens?
Dans le sens segmentant, genre tout le monde va pas aimer, tu vois.
Ouais, j'aime bien ça, ouais, de fou,
parce que j'ai l'impression que tu, depuis tout à l'heure, dans ce que tu dis, il y a un aspect ne pas diluer, tu vois, que le truc soit fort à chaque fois.
Ouais, ben, y a ça, et ça a évolué, même ça a même évolué avec ma manière de produire, où de plus en plus, tu vois, je suis pas dans, quand les projets s'y prêtent, hein, tu vois, mais je suis pas dans le truc direct que tu vas te manger, tu vois, en HD. Je suis dans un truc un peu plus subtil, tu vois, limite du tu vois, d'une 7e, 6e écoute, tu vois, où là, tu sens le truc addictif, tu vois. Moi, par exemple, je l'ai vécu sur Taxi, où quand je faisais écouter à mes potes, je faisais écouter, par exemple, le Santana, tu vois, d'Alonso. Mm-hmm. Et c'est ça, l'assurance et l'expérience. Je pense que quand tu arrives à ce truc-là, à ce level-là, tu es vraiment bien, en fait, dans ta tête. C'est, tu arrives à maîtriser vraiment même ton, les gens qui écoutent, dans le sens où tu sais que dans ce que tu fais, ils vont pas se manger une gifle tout de suite, mais tu attends l'appel. 3-4 jours après, tu vois.
Tu veux dire que quelques années auparavant, si c'était pas mangé la gifle immédiatement, t'aurais peut-être plus douté, ou tu
serais... Ouais, complètement. Complètement. Mais aussi parce que ça correspond à une époque.
Ouais.
Et là, tu vois, le par exemple, le Alonso, moi j'ai des potes qui m'ont rappelé après. C'est des potes, tu vois. Alors quand tu leur fais écouter la première fois, tu dis ouais, c'est bien et tout, tu vois. Mais tu sens que c'est pas le middle kick, tu vois, qui se sont mangés dans la tête, t'as capté. Et donc de là, moi, j'esquisse un petit sourire parce que je sais. Et les mecs me rappellent, tu vois, 3-4 jours après. Ils me disent, putain, mec, le Alonso, en fait, c'est un truc de ouf. Tu vois, c'est.
Donc, t'es plus dans la recherche de ce genre de truc-là maintenant?
Ouais. Et ça a commencé avec SCH, en fait. Tu vois, parce que SCH, tu vois, c'est un artiste qui, pour moi, tu sais, c'est pas tous les jours, en fait, tu vois, que tu peux bosser avec des gens comme ça. Parce qu'il est. c'est vraiment l'artiste par excellence, tu vois, qui va t'emmener loin aussi, où vraiment les deux vont se transcender, tu vois, pour aller chercher un truc. Et quand j'ai coproduit Champs-Élysées, tu vois, avec Mid, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas du, c'est fort, c'est pas un truc, c'est pas du easy listening tout de suite, tu vois, en vrai. Et après, il y a un truc tellement addict derrière. C'est tellement, c'est mort, tu vois. Dès que tu te l'es mangé, après, c'est mort.
Et ça, maintenant, t'arrives mieux à le sentir, en fait.
Ouais.
Ou à l'écouter, en tout cas.
Ouais. Complètement. J'arrive mieux à le sentir et j'arrive mieux à l'écouter.
Et donc, c'est ce genre de truc-là que tu cherches chez les gens que tu vas signer ou que tu vas produire, etc.
Ouais. Ouais, j'essaye au maximum, tu vois. Et après, je m'adapte aussi, tu vois. Mais déjà dans la typologie d'artistes ou dans tous les artistes que je signe, il y a un truc quand même où je veux pas de doublons. Tu vois, comme ça, chacun a son truc. Et j'espère, tu vois, j'espère vraiment ramener un truc frais, ramener un truc nouveau. Tu vois, moi, pour moi, l'exemple de label que j'ai par rapport à, si je devais donner un équivalent aux États-Unis, aujourd'hui, ça serait TD, tu vois. Pour moi, le label de Kendrick, j'aime beaucoup le flow. Dans quel sens? Dans le sens où c'est un peu, tu vois, c'est un peu mystérieux. Et en vrai, quand ça sort, c'est une déflagration à chaque fois. Tu vois, j'aime beaucoup ça. Parce que je trouve que, voilà, en gros, ce qui définirait ce truc-là, le mot exact serait le mot pudeur, en fait, tu vois. Une espèce de pudeur, mais ça, pudeur, souvent, quand il y a le truc de pudeur, malheureusement, souvent, ça peut pas, tu peux pas l'associer à gros game. Tu vois, dès que tu dis pudeur, alors ça va être, t'es dans un truc un peu, limite, les mecs qui pensent que, tu sais, t'es dans un truc.
Qu'est-ce que t'appelles pudeur, alors, ça?
Bah, pudeur, pour moi, c'est plus un truc de, tu vois, t'es pas tout le temps sur la toile, tu vois, je veux dire, t'es pas tout le temps, tu shines quand tu dois sortir un truc.
Mais je t'entendais pas d'ailleurs, il me semblait que je t'entendais récemment parler d'un manque de générosité actuelle des artistes au vu de la promotion, de ce genre de choses, tu vois. Ce qu'avait fait Kanye avec Yeezus, par exemple, ou. C'est pas la même chose?
Non. Non, non, non. Ça c'était. Je disais ça pour autre chose. Je disais justement, je reviens sur ce que tu disais au tout début de l'interview, c'est-à-dire que quand on parle de mimétisme, tu vois, c'est. La générosité, en fait, c'est perçu plus comme un truc d'une technique marketing, tu vois, de dire, ouais, tu sais, je reste froid.
De machin, faire genre, je suis hors d'atteinte un peu.
Ouais, tu vois. Or que c'est pas du tout, or que dès qu'il y a un endorsement avec Nike, tu vas y aller en courant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce truc-là, en fait, que, et tandis que Tidy, tu vois, déjà au niveau des clips et tout, et même dans la manière dont ils travaillent leurs artistes. Tu vois, là, je sens, par exemple, moi, J-Rock, ça fait longtemps que je l'écoute, mais je sens que c'est là, pour lui. Ça fait déjà 10 ans en vrai, tu vois. Mais là, je pense que c'est vraiment là, tu vois. Il a le bon truc, il a. Et tout ça, ça s'amène petit à petit.
Ouais, donc ce que tu appelles pudeur, c'est le côté. Ils sont pas tout le temps en train de s'afficher, mais quand ça sort, ils y vont à fond, c'est ça?
Ouais. Et quand ça sort, ils y vont à fond. Et ça veut pas dire que t'aimes pas les belles choses, ou que t'aimes pas les grosses caisses, ou que t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. Et souvent, c'est pris pour ça, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont ce label fonctionne. Tu vois, mais comme Schoolboy Q, tu vois, de toute façon, tout ce qu'ils font, moi, c'est des trucs que je kiffe. Et les gens vont vers eux. Tu vois, les gens vont vers eux. Il y a une dimension aussi sociale, tu vois, avec le festival qu'ils font dans leur quartier. T'imagines, c'est comme si t'es à Bondy, tu vois, dans le ghetto, et tu ramènes Rihanna, tu sais, mais ouais. Vraiment, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et je trouve ça chambé.
Il y a un truc que tu disais juste avant, là, que t'es intéressant quand tu fais écouter les morceaux à tes potes, etc. C'est toujours eux ton premier public. Comment tu fais pour savoir qu'un truc est bon, en fait? Parce qu'à part ton propre avis, même si tu gagnes en assurance.
Bah, j'observe, ouais, vachement autour de moi.
Mais c'est genre ton entourage, quoi.
Ouais, mon entourage, ma femme aussi beaucoup. Tu vois, parce qu'elle a, elle a une culture musicale de ouf, tu vois. C'est. J'ai Leslie, elle écoute pas. Elle écoute pas Gucci Mane depuis qu'il y a Coachella, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien avant, tu vois, le son de Houston, ou, tu vois, c'est comme ça qu'elle écoute. Donc, on sait, tu vois, on se connaît, on sait, et je sens quand un truc est vraiment bien, tu vois, mais je me fie de plus en plus à moi-même, en fait. Tu vois, j'arrive à faire une introspection, tu vois, sur moi et dire, t'en as, là, je sens que c'est pas ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée, c'est pas de se mentir. Tu vois, bien se sonder et aller chercher autre chose.
Parce que tu sais toujours, en fait, au fond?
Souvent. Pas toujours, tu vois, souvent. Des fois, je peux me gourer sur des trucs. J'envoie un message j'en parlais à Diosan, en fait, au producteur de Maes, où il me faisait écouter le projet au début sur un morceau. Après, c'est juste sur des valeurs, en fait, tu vois, c'est subjectif, en fait, tu vois, mais sur le morceau Switch Up, tu vois, que moi, j'aimais pas. Et je leur avais dit, mais mettez-le même pas dans le projet et tout. Ça va pas schéma, ça va rien faire. Et en fait, c'est tout le contraire, tu vois.
Ouais.
Et le truc a cartonné et tout. Donc, et tu vois, si j'en parle comme ça normalement, tu vois, c'est que c'est cool.
Ouais, tu te dis pas, ça, tu te remets pas en question dans ces moments-là ou.
Non, tu peux te gourer.
Et du coup, maintenant, c'est quoi les prochains trucs sur lesquels tu bosses là?
Bah là, je t'avoue, c'est. En termes de réal, c'est beaucoup Zola. Là, je bosse beaucoup sur son projet. Et sur mes nouvelles signatures. Tu vois, j'ai pour ambition, parce qu'il y a aussi une logique. Là, je sors de mon côté compositeur, tu vois, où quand je suis dans le studio, dans ma tête, j'ai encore 16 ans, tu vois. C'est-à-dire que je peux rester encore au studio tant que mon souhait sonne pas, tu vois. Je peux sortir du studio à 6h du matin, tu vois ce que je veux dire. Même dormir là, même, tu vois.
Ça sert d'avoir un studio, un lieu qui est un peu coupé du monde pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être concentré.
Ouais.
Le côté, tu pourrais pas faire ça de chez toi, par exemple, ou... Enfin, déjà, en termes de matériel. Mais est-ce que le fait d'avoir un endroit qui est pas chez toi justement ou qui est coupé du monde un peu, ça aide à être concentré, à travailler?
Ouais, complètement. Et puis la manière dont j'ai conçu le studio, c'est vraiment à l'image de ce que je fais aux États-Unis dans le sens où de ce que j'ai vu là-bas, tu vois, sur des ce qu'on appelle des songwriting camps, tu vois, où t'as plusieurs auteurs, tu vois, plusieurs compositeurs. Et l'idée pour moi, les meilleurs studios, c'est les studios où tu peux immortaliser ton idée tout de suite, sans que la technique, tu vois, vienne freiner le truc, en fait.
Ouais, c'est bam, t'as une idée, t'arrives, tu vois.
Et c'est pour ça que si tu vois le studio, je te ferai visiter après, mais toutes les cabines sont connectées entre elles, pour qu'on puisse se passer des trucs et machin, et jamais freiner la créativité. Il y a du son tout le temps. Et tous les mecs qui nous connaissent ici et qui ont l'habitude de venir, ils savent, tu vois, que les portes sont tout le temps ouvertes. Mais tu sais, quand tu sens quand on est dans un truc de création, machin, qu'il faut même pas, tu vois. Parce que, tu vois, tu peux passer à côté d'une mélo, d'un truc, et c'est relou, en vrai. Mais ouais, le studio, je l'ai conçu comme ça. Et puis surtout, dans la richesse, tu vois, de ce qui se passe ici, c'est ouf, tu vois, parce que... Tu vois, je peux bosser avec Brodinski. La semaine dernière, j'étais avec lui. On a fait des morceaux. Je peux être avec Sam Tiba. Je peux être avec Nasser, avec qui je compose, avec Aurel. Et on échange, tu vois. Et on échange. Et il n'y a plus, justement, ce truc, tu vois, sectaire, tu vois, de tu peux pas... Parce que l'exception culturelle en France fait que tu peux pas passer de ça à ça, tu vois. Aujourd'hui, les gens se mélangent et je trouve ça mortel.
Et pour finir, est-ce que tu as l'impression que ton état d'esprit il a changé par rapport à quand tu commençais?
Bah ouais.
Ta manière d'aborder ce que tu fais ou...
Ouais, bah ouais, complètement. Complètement, parce que j'y vais vraiment... Moi, c'est que du kiff, en fait, aujourd'hui, tu vois.
C'était pas le cas forcément au début?
C'est pas que c'était pas le cas au début, c'est que tu veux en faire, tu veux en faire ta vie. Tu vois, je veux dire, tu veux vivre de ça. Et donc, du coup, t'as une petite boule au ventre parce qu'il y a des moments, il y a des fins de mois difficiles, il y a des, tu vois. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tu vois, je suis plus dans ces problèmes-là. Donc, je suis dans un truc, tu vois, super cool, tu vois, qui fait que je viens juste m'amuser, moi, en fait.
Mais t'arrives à continuer à bien bosser, même avec le confort, en fait. Ça t'a pas empêché, quoi.
Ouais, complètement. Complètement. Complètement parce que finalement, c'est pas un lieu que j'ai fait je suis vachement dans le partage, en fait. C'est pas un lieu que j'ai fait pour moi ici, parce que si c'est que moi, tu sais, tu me laisses, j'ai une petite pièce à côté, tu vois, et c'est là où je passe le plus clair de mon temps, tu vois, à bosser mes petits trucs et tout, tu vois. Donc Donc j'ai pas perdu le geste. Tu vois la simplicité du geste, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc simple en fait, tu vois, dans lequel je suis dans ma manière de bosser. Il y a rien de compliqué en fait, j'applique toujours le même truc. J'essaie tout le temps de garder ce truc d'enfant en fait, tu vois, dans ma tête du début en fait. Et c'est ça que j'arrive à garder. Et ça va de pair avec la vie que je mène, qui fait que ça peut pas m'emmener ailleurs. Tu vois.
Bah merci beaucoup Cor.
Merci
d'être venu sur Nouvelle École.
Merci à toi.
Où est-ce qu'on envoie les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou sur toi?
Pour l'instant, je te dirais sur Insta, tu vois, sur Instagram. Mais là, on va se développer un peu plus quand même. Là, c'est important. Tu vois, il y a le label qui arrive. C'est important d'arriver et de. Mais j'ai hâte de vous faire découvrir un peu tous ces nouveaux artistes avec qui je travaille, parce que c'est que des nouveaux en fait. C'est ce qui me fait kiffer.
Trop bien. Ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle École, je donne ça à l'ancienne.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.